이제 대한
대선 대초하던데 세다지 어서이나 이제.
On le sait, il y a une crise climatique. Notre climat change, se réchauffe, se dérègle. Ce changement, il est là. Et pourtant, on a de la peine à se le représenter. Le changement climatique, il est visible au quotidien? J'habite en ville de Genève, et parfois, quand je me balade dans mon quartier, j'aperçois au loin le jet d'eau, et derrière, le massif du Mont Blanc. Il est majestueux et blanc. Mais va-t-il falloir le renommer? On devrait peut-être anticiper et le rebaptiser le Mont Vert.
Je pense pas qu'on va le renommer. Les glaciers, d'ici la fin de ce siècle, dans tous les cas, il en restera pas beaucoup.
J'en déduis que ma question n'était pas drôle. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui regarde les signes du réchauffement climatique depuis ma fenêtre. Microsciences, un podcast de la RTS. C'est Martine Rebetet, professeure de climatologie à l'Université de Neuchâtel et à l'Institut de recherche WSL, qui a accepté de me montrer les signes insidieux de cette catastrophe. De ma fenêtre, je vois le Rhône, le fleuve qui prend naissance au massif du Gothard et qui finit sa course dans la Méditerranée. Il y a des forêts au bord du Rhône, une forêt mélangée de frênes, de chênes, d'érables. Au loin, des montagnes. C'est ça, la Suisse. Ça se voit, là, par ma fenêtre ouverte, ce qui se passe dans l'atmosphère?
Alors, vous pouvez voir et sentir certains signes du changement climatique. Vous pouvez voir l'altitude de la neige qui a beaucoup changé, l'absence ou la rareté de la neige en ville. Ça, c'est pour l'hiver. Et puis, en été, vous avez déjà bien ressenti les canicules d'une durée et d'une intensité qu'on ne connaissait pas auparavant. Vous remarquez aussi des saisons dans la végétation qui commencent plus tôt, qui se termine éventuellement plus tard selon les végétaux.
C'est vrai, tout cela, je le vois. La canicule, je l'ai senti l'été passé. Et des étés, j'en ai connu, des beaux, des pourris, des étouffants, même quand j'étais enfant et qu'on ne parlait pas vraiment du réchauffement climatique. Ces canicules, pour moi, ce n'est pas forcément évident de savoir si elles sont clairement liées au réchauffement de la planète.
Oui, maintenant on peut vraiment être affirmatif parce qu'on a des techniques qui permettent d'attribuer certains événements au réchauffement climatique ou pas, donc d'affirmer que cet événement-là n'aurait pas pu se produire sans le supplément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est présent aujourd'hui. On regarde comment l'été aurait pu être dans le passé. On peut aussi le voir en comparant avec ce qu'on a eu dans le passé. On a eu des étés extrêmement chaud, même dans les années 40, l'été 47, l'été 49. On a eu aussi une longue série caniculaire en 76, pour ne pas parler de celle de 2003 qui était déjà attribuable au réchauffement climatique. Donc on peut faire ces comparaisons et se rendre compte qu'avec la même situation météorologique, on a aujourd'hui des températures qui sont plus élevées et des conditions qui se maintiennent plus longtemps.
Plus longtemps et plus souvent.
Oui, ça c'est clairement dans nos régions et ailleurs, mais en particulier dans nos régions, ça veut dire sur l'ensemble de l'Europe, et puis de manière générale, après si vous êtes en Arctique, vous avez un réchauffement climatique qui est très fort, est-ce que on parle de canicule si on a des températures extraordinairement élevées qui sont à 15 degrés, voilà, ça se discute. C'est quelque chose qui est prévu et à quoi on va devoir faire face dans les prochaines décennies.
Et ces arbres, en bas de chez moi, les frênes, les chênes, ils vont sans doute se comporter différemment?
Oui, alors la végétation démarre clairement plus tôt, mais ça dépend. Vous avez des arbres qui réagissent à la durée du jour solaire et puis d'autres qui réagissent aux températures. Et évidemment, ceux qui réagissent le plus aux températures, eux, on les voit réagir très tôt. Le marronnier de Genève, c'est un exemple.
Le marronnier de Genève. Lui aussi, il a toujours été là. Pour moi, en tout cas. Il se situe sur la promenade de la Treille, juste au-dessus du parc des Bastions. Depuis 1818, l'éclosion de sa première feuille annonce le printemps. Et c'est vrai, le premier bourgeon éclot de plus en plus tôt. En 2003, c'était le 29 décembre de l'année d'avant. Ce sera la canicule de 2003, on dira que c'est une exception. Cette année, c'était le 10 mars. Mais bien avant ma naissance, au début du siècle passé, il était courant qu'il ne dévoile sa première feuille qu'en avril.
Cela dit, la végétation en ville est aussi influencée par les températures de la ville. Donc nous jouons un rôle avec les constructions, avec toutes nos activités directes sur les températures. Donc le réchauffement climatique se mesure évidemment à l'extérieur des villes pour pouvoir vraiment comparer dans des conditions qui ne sont pas influencées localement.
D'accord, mais moi... Ce que j'aimerais savoir, c'est si je vais me retrouver avec une palmeraie sous ma fenêtre quand je serai à la retraite.
Alors directement, non. Mais pour qu'il y ait des palmiers, il faut déjà qu'on ait des graines de palmiers. Donc cette condition est très bien remplie au Tessin, elle est bien remplie à Montreux, elle peut l'être à Genève aussi. Donc ces palmiers-là vont se disséminer dans les forêts et vont pouvoir effectivement donner des arbres du moment qu'on n'a plus des températures qui descendent, on va dire, plusieurs jours en dessous de moins 5. C'est une végétation qui peut, surtout en forêt, dans une zone bien protégée, qui peut survivre à un ou deux jours, à moins deux, moins trois, ça va. Et jusqu'ici, on avait quand même des séries de jours où on descendait à du moins sept, moins dix à Genève. Ça devient de moins en moins fréquent, donc les plantules peuvent prospérer en tout cas plusieurs années et de plus en plus longtemps.
Ok, mais il y a une petite chance pour que mes arbres indigènes restent là ?
On voit par exemple que les hêtres souffrent de plus en plus de la sécheresse. Si c'est pas de la chaleur, c'est souvent la sécheresse qui est problématique pour les arbres. Donc ça va dépendre du sol en fait. Si vous avez une nappe phréatique sous les arbres qui sont visibles depuis votre fenêtre, là ça va bien pouvoir rester. Par contre, si l'approvisionnement en eau pose problème, les hêtres, eux, ils vont mal vivre. On a aussi toutes les maladies tropicales qui viennent d'autres régions qui peuvent toucher certaines essences. Et ça peut se faire brusquement. Donc pour que vous gardiez une forêt agréable, et dans certains cas c'est des forêts aussi protectrices, hein, qui évitent les risques de chute de pierre et les glissements de terrain, pour que ça reste une forêt de qualité, aujourd'hui il faut qu'elle soit très mélangée. Si bien que si vous avez une essence qui est malade ou qui ne supporte plus les conditions, on est déjà en place d'autres arbres qui prospèrent.
Et on en a vu pas mal l'été dernier, des arbres mourir de sécheresse. Les effets du réchauffement climatique se voient et seront de plus en plus visibles. Martine Rebetet est autrice du livre « La Suisse se réchauffe ». Ça fait plus de 20 ans qu'elle suit notre climat. Mais de combien s'est-elle réchauffée, cette Suisse ?
Sur l'ensemble du globe, on est aujourd'hui à 1,1-1,2 degrés d'augmentation. Et en Suisse, c'est toujours le double. Donc dans nos mesures, on est dans une région où les températures augmentent deux fois plus vite qu'en moyenne globale parce que nous sommes éloignés des océans. Les océans modèrent beaucoup la température de l'atmosphère qui est à proximité. Ils absorbent beaucoup d'énergie dans leur grande profondeur. Et puis aussi, on est dans une région qui avait beaucoup de neige auparavant et qui en a beaucoup moins. Or, une couverture neigeuse retourne le rayonnement en direction de l'espace, ce que fait moins une couverture de sol plus foncée.
Bon, bah c'est super. On fait mieux que les autres. La température moyenne de Genève est de 12-14 degrés. Pour moi, c'est une notion assez peu palpable.
En fait, une température moyenne sur l'année dans nos régions, ça n'a pas de sens en quelque sorte. C'est intéressant parce que ça nous permet de voir de combien elle augmente à l'heure actuelle. Mais on est dans sous des latitudes où les températures changent beaucoup d'une saison à l'autre. Elles changent beaucoup entre le jour et la nuit et elles changent beaucoup d'une année à l'autre. On a des années clairement plus chaudes que d'autres.
Et c'est ce que je vois aussi. Des canicules qui succèdent à des pluies abondantes ou à des sécheresses. Mais comment peut-il pleuvoir plus et moins à la fois? Moi, ça me paraît paradoxal.
On a à la fois plus de sécheresses et plus de précipitations extrêmement intenses. Donc c'est une intensification des précipitations parce que l'air plus chaud, 1 degré de plus, c'est déjà 7% d'humidité en plus dans la masse d'air. Donc ça veut dire que cet air est capable d'assécher davantage les sols puisqu'il peut lui absorber plus d'humidité. Mais lorsqu'il pleut, il a aussi un potentiel de précipitation qui est supérieur. Donc plus les températures augmentent, plus on va vers une intensification à la fois des sécheresses et des événements de précipitations intenses.
N'empêche que le printemps a été super sec.
Du moment que c'est une saison où on a des précipitations fréquentes mais pas abondantes, en augmentant un petit peu les températures, on risque justement d'avoir moins de ces petites averses qu'on connaissait auparavant.
Et la neige ? Elle est où la neige ?
On compte sur 40 ans qu'on a perdu à peu près 40 jours de couverture neigeuse à toutes les altitudes. Dans votre ville, on avait 60 jours auparavant, il en reste une vingtaine, tout au plus.
Résumons. Les arbres affichent leur feuillage plus tôt. Il y a des périodes de canicule, des sécheresses qui alternent avec des périodes de pluie plus abondantes, moins de neige. Mais alors, à quoi a-t-on affaire ? À du réchauffement, du changement ou du dérèglement climatique ?
Pour moi, les deux vont. Changement climatique, réchauffement climatique, dérèglement climatique, on est en plein dedans. Les trois sont OK. On parle de réchauffement, c'est vraiment qu'on traite des températures. Changement climatique, c'est bien l'ensemble, y compris les changements dans les précipitations, dans l'enneigement. Et puis dérèglement climatique, ça suppose qu'on avait une règle auparavant. Je l'utilise pas, mais c'est tout à fait OK.
Pour en revenir à la vue depuis ma fenêtre, le Mont Blanc. Que va-t-il se passer avec ce massif ?
Là, alors, on va vers des difficultés au niveau des glaciers. Les glaciers fondent. Et puis, on a en plus beaucoup de glaciers qui sont plaqués contre la roche et qui ont un comportement particulier qui est lié au fait que les températures à ces altitudes ne montaient jamais auparavant au-dessus de zéro. Donc, ces glaciers étaient toujours complètement gelés et accrochés à la roche. De plus en plus, si on se trouve dans des situations où ils peuvent dégeler ne serait-ce qu'un peu. En été, aujourd'hui, on a le zéro qui est à 5000 mètres et plus. C'est des glaciers qui sont verticaux, en fait, vraiment plaqués contre le rocher. Là, on a des risques en montagne qu'on ne connaissait pas auparavant. Et c'est bien de surveiller ces situations et puis d'avertir les alpinistes que dans les conditions de température très élevées, c'est pas le moment pour aller en haute montagne.
Bon. Je n'avais pas particulièrement prévu de faire une ascension du Mont Blanc. Cela dit, j'aime bien le voir au loin, parce que ça fait un moment qu'il m'accompagne. Mais ce ne sont pas que les glaciers du Mont Blanc qui sont concernés. Tous les autres aussi.
Si on agit drastiquement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, si on agit maintenant, vraiment tôt, là on va pouvoir garder une partie de ce qui reste sur la deuxième partie du 21e siècle.
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Accord de Paris 2015, un traité international sur le réchauffement climatique. À l'époque, plein de pays étaient d'accord sur le fait qu'il fallait limiter le réchauffement à 1,5 degré. Pas seulement pour que je puisse voir encore des glaciers, mais pour limiter les conséquences humaines et écologique du réchauffement climatique. Je vous livre la version courte. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour que ce réchauffement climatique puisse effectivement se limiter à 1,5 degré d'ici 2040.
Probablement, on va dépasser 1,5 degré avant 2030. On aura des années où on dépassera ce seuil, oui.
Vous l'avez compris, c'est mal barré. Et ce dépassement changera la face de la planète, la vue depuis ma fenêtre et le fil de nos saisons.
Évidemment, un hiver qui ressemblera de moins en moins aux hivers qu'on connaissait années 60 ou 70, avec beaucoup de neige en plaine et beaucoup de neige en moyenne montagne. Donc les hivers ne seront plus pareils, mais les étés seront beaucoup plus chauds. Donc du point de vue de la végétation, ça ressemblera de plus en plus à ce qu'on a vécu cette année, avec un printemps précoce, une végétation qui prospère sur le printemps mais qui s'arrête en été et puis qui reprend en automne. On l'a vu cette année avec les herbages où il a fallu renoncer à exploiter les alpages au mois d'août déjà, mais certains ont pu retourner en octobre pour profiter même à des altitudes relativement élevées de l'herbe qui avait poussé encore en octobre et novembre. Mais avec aussi d'autres années comme 2021, avec des précipitations excessives sur toute l'année, y compris en été, et des récoltes qui souffrent de toutes sortes de moisissures et champignons. Donc pour l'agriculture, ça va être aussi de plus en plus difficile. On avait trouvé de bonnes techniques avec l'expérience qui s'était accumulée et aujourd'hui on va vers des contrastes qui font qu'on doit avoir des graines qui sont adaptées à la fois à des conditions de très forte sécheresse mais aussi à des conditions de précipitations très fréquentes. Donc l'agriculture va vers des conditions vraiment de plus en plus difficiles.
Et malgré cela, on continue de brûler du pétrole et d'autres énergies non renouvelables qui pourrissent notre climat et notre planète. Mais puisque ce sont des énergies non renouvelables, le jour où on n'aura plus d'énergie fossile, on arrêtera peut-être de les consommer, non ?
Les énergies fossiles, il en reste des quantités invraisemblables. Le pétrole encore, on peut imaginer qu'il y a certaines limites. Mais alors le charbon, on peut en trouver encore de quoi se chauffer au charbon jusqu'à la fin du 21e siècle. Donc non, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire délibérément.
Et en attendant, notre planète change et nos proverbes aussi. Il fut un temps où les dictons rythmaient nos vies et celles des agriculteurs. Mars sec, avril humide, mai frais, remplissent la cave et donnent beaucoup de foin. Autant de brouillard en mars, autant d'orage en été. Juin humide, vide les granges et les tonneaux.
Les dictons servaient justement à transmettre toute cette expérience qu'on avait accumulée pour dire ben il faut pas se réjouir au printemps s'il fait un peu chaud parce qu'il peut revenir du froid, ou en automne on peut encore avoir des jolies périodes de chaud alors même qu'on a déjà eu du gel et ce genre de choses. Ben, aujourd'hui les choses sont souvent décalées dans le calendrier, donc ce qui était annoncé par rapport à un calendrier des pratiques agricoles par exemple, ça doit être adapté effectivement.
En avril, ne te découvre pas d'un fil.
Peut-être que ça se prête à février-mars aujourd'hui, mais en avril il peut faire vraiment, vraiment chaud aujourd'hui et ça vaut la peine de se découvrir.
En fait, le changement climatique se voit aussi sur mon corps et mes habits.
Mon orteil me fait si mal quand je le cogne. Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? On voit la lumière quand j'éteins ma lampe. Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique. Et je suis accompagnée de Camille Dupont-Laïte, coproductrice fraîche. De Jérôme Nussbaum, tricoteur musical. Et de Mathieu Ramsauer, réalisateur stratosphérique. Si cet épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Play RTS ou Spotify. Et écrivez-nous à microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. Mais si les humains ont déréglé le climat avec leur technologie, ne pourrait-on pas le réparer, récupérer du CO2 de l'atmosphère et le stocker quelque part où il ne nous nuira plus? Faut-il y croire?
Alors, en science en général, puis en climatologie en particulier, j'aime pas le terme « croire ». Parce que pour moi, on n'est pas dans l'ordre de la croyance. Et la croyance, c'est exactement là où la désinformation des milieux pétroliers essaye de nous ramener. Les changements climatiques en général et puis les connaissances, c'est bien des faits, des connaissances et pas des croyances. Mais s'agissant de la séquestration de carbone, c'est des techniques dont on va avoir besoin pour essayer de modérer le changement climatique autant que possible. Mais aujourd'hui, la manière, la meilleure marché, la plus efficace, c'est de ne pas brûler du pétrole, du charbon ou du gaz. Ça, c'est vraiment la manière la plus efficace et la plus rentable. Et c'est seulement au-delà, au moment où on peut disposer d'énergie totalement renouvelable pour toutes nos applications, qu'on pourrait utiliser une partie de ces énergies renouvelables, le supplément disponible, pour stocker du carbone.
Et dans un prochain épisode, on se penchera justement sur ces technologies.
Plus chaud que le climat, on est plus chaud.